Bonsoir frères et sœurs. Ouvrons le Saint-Livre dans un passage qui nous préoccupe dans l'Apocalypse au chapitre 2. Nous avons une explication de la façon dont Dieu marche. Je ne sais pas si vous voulez que Dieu marche au milieu de nous. Qu'est-ce que nous voulons dans une église? Franchement, qu'est-ce que vous voulez voir dans une église au fait? Si on devait vous dire en premier, qu'est-ce que vous voulez voir dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous écririez? La présence de Dieu. Voilà, exactement. Dans l'Apocalypse au chapitre 2, l'introduction est une introduction très agréable dans le sens où nous fait comprendre en même temps comment ça doit marcher. Apocalypse chapitre 2, verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche. Où c'est qui marche le Seigneur? Il ne marche pas n'importe où le Seigneur. Il faut bien comprendre ça. Dieu marche au milieu des sept chandeliers d'or. Vous connaissez ce qu'a dit Jésus? Vous êtes la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière. Et puis après, lorsqu'il allait partir au ciel, il a dit, vous êtes la lumière. Il a transféré cette délégation à nous. Dans les évangiles, c'est Jésus qui fait l'œuvre de Dieu. Dans le livre des actes, c'est l'Église qui fait les œuvres de Dieu. Et s'il est la lumière par excellence, nous aussi, nous devons devenir cette lumière, et Jésus est clair, ça ne peut pas être plus clair. Dieu ne marche pas n'importe où. Dieu, il marche au milieu des chandeliers d'or. Dieu ne marchera pas n'importe où. Dans 2 Corinthiens, je prends souvent ce texte qui correspond à ce que nous sommes en train de vivre. Eh bien, c'est bien en même temps. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, il y a un gros enseignement sur la grâce et comment cette grâce va se répercuter dans l'église ou dans notre vie, parce que un local comme celui-ci, lorsqu'il est rempli de chrétiens, il devient la maison de Dieu. Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Des chrétiens doivent savoir comment on se conduit dans la maison de Dieu. Mais aussi, individuellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le chapitre 6 de 2 Corinthiens commence avec une parole qui devrait franchement nous faire réfléchir. C'est une parole très très importante, puisque nous travaillons avec Dieu. Il ne faut pas travailler pour Dieu sans savoir si on fait les œuvres de Dieu. Nous devons travailler avec Dieu. Regardez bien cette exhortation, comment elle est importante. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je reçois... Dieu me donne un passage, une exhortation, etc. Mais ça sert à rien. Comme un vase qui n'est pas le vase qu'il devrait être. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors à partir du verset 14, et c'est important parce que beaucoup de chrétiennes, moi je l'ai vu tout le long de mon ministère, n'ont pas compris ces choses. Quand il est dit « ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Combien de chrétiens, de jeunes filles ou de jeunes hommes ont choisi de fonder un foyer avec quelqu'un qui n'appartenait pas à Dieu? Vous avez vu le résultat? On le sait. C'est toujours la catastrophe, toujours. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est des questions que Dieu pose, c'est pas à Paul. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas le mélange, Dieu ne bénit pas le mélange. Le mélange, ça ne sert à rien. On veut mondaniser l'Église. On a voulu évangéliser le monde. Est-ce que c'est bien de vouloir évangéliser le monde? Et en fin de compte, c'est le monde qui a mondanisé l'Église. C'est exactement ça qui s'est passé. Et les gens n'y voient que du feu. Alors, le Seigneur rappelle, nous sommes le temple du Dieu vivant. Le Seigneur, il est vivant, il faut bien le comprendre. Comme Dieu l'a dit, alors regardez, j'habiterai, c'est ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, que Dieu marchait au milieu de nous. Vous voyez, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? On l'a lu dans l'Apocalypse. On le lit dans Corinthiens, de ne pas recevoir la parole de Dieu en vain. Nous sommes le temple du Seigneur. Dieu l'a dit, il veut habiter et marcher au milieu de nous. C'est pour ça qu'il faut discerner la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent rien à la volonté de Dieu. Ils vont à l'église, et comme ils vont à l'église, comme ils lisent la Bible, et comme ils prient un petit peu, ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle doit se discerner. Je l'avais partagé dernièrement, même Dieu dit quelque chose qui pourrait paraître un peu dur, mais c'est simple. Stupide, apprenez le discernement. Ça veut dire que quel que soit un chrétien, même s'il n'est pas trop en forme, eh bien, il peut apprendre le discernement. C'est dans le Proverbe au chapitre 8, insensé, apprenez l'intelligence. Même si on ne va pas bien avec Dieu. Vous savez, quand on se convertit, on n'est pas tous en forme. Hein. Et même quand on est chrétien, des fois, on passe des moments où on n'est pas bon, on n'est pas bien. Et le Seigneur dit, mais apprenez l'intelligence. Stupide, apprenez l'intelligence. La volonté de Dieu, il faut la discerner. Paul dit qu'il y a des choses, si on les fait, on ne le discernera pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Afin de discerner la volonté de Dieu. Le verbe discerner indique qu'il y a vraiment un travail sérieux pour discerner la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, ce n'est pas des paroles. Dans le sermon sur la montagne, vous avez tous, quand vous avez commencé à lire la Bible, qu'est-ce que vous avez lu? Allez, dites-moi, le Lévitique? Non? Qu'est-ce que vous avez lu la première fois que vous avez ouvert la Bible? Quand on vous a offert une Bible, quel est le premier livre que vous avez lu? Les psaumes? Qu'est-ce que... Ézéchiel? Ça m'étonnerait. Matthieu, oui, moi j'ai lu Matthieu, parce qu'on m'avait dit, commence par le Nouveau Testament. Alors, moi je me souviens, quand j'ai lu Matthieu, on lit de suite, presque de suite, le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne termine avec une parole quand même assez inquiète, enfin, qui est perplexe, ça fait réfléchir. Alors, la fin du sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 7. Il parle de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne font que le dire, hein. Matthieu chapitre 7, verset 21, n'oubliez pas, c'est tout un long enseignement sur ce qu'un chrétien doit faire. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, donc Dieu, il parle, il y a des gens qui parlent à Dieu, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, vous rendez compte, c'est terrible ce qu'on va lire. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, c'est-à-dire je ne vous ai pas approuvé. » Il connaît tout le monde, le Seigneur. Mais c'est ça que ça veut dire, je ne vous ai pas approuvé. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que si on vit dans l'iniquité, c'est qu'on ne connaît pas le Seigneur. Un chrétien qui vit dans le péché, volontairement dans le péché, il ne connaît pas Dieu. D'ailleurs, Paul le dit aux Corinthiens, je le dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu, puisqu'ils vivaient dans le péché. Donc la volonté de Dieu, c'est pas des paroles. La volonté de Dieu, c'est des actes. Dieu attend des actes. Ça, on en reparlera dimanche. C'est très important, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais celui qui fait la volonté de Dieu. Jacques, il dit « Mettez en pratique la parole ». Alors j'aimerais pour cela prendre un texte qui vraiment me travaille, c'est dans le prophète Zacharie, livre que vous lisiez aussi au début. Alors Zacharie, c'est un des derniers livres de l'Ancien Testament. On va lire le chapitre 4. Je vous encourage à le lire chez vous et à le méditer. On abordera ce chapitre. Zacharie, il veut faire du bien à Zorobabel. Zorobabel, c'est le gouverneur. Et il veut lui faire du bien. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous faire du bien? Vous le savez? C'est sa volonté, il veut nous faire du bien. Alors dans le prophète Zacharie, il passe un moment difficile. Est-ce que vous savez qu'on peut tous passer des moments difficiles? Alors, on va le lire en entier. Je voudrais vous expliquer, au travers de ce chapitre, que nous pouvons voir certaines choses, mais que Dieu voudrait que nous en voyions d'autres. Zacharie, chapitre 4, verset 1er. « L'ange qui me parlait revint et me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ?» Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or. Tiens, vous voyez comme dans l'Apocalypse. Il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avait 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, un à sa droite, à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Les sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où s'écoule l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qui signifie ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il me dit, « Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. » Ce chapitre est une parole que Dieu a donnée à son serviteur, à Zorobabel, parce qu'il avait besoin d'un moment d'encouragement. À des moments, on a besoin d'une parole d'encouragement. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, c'est que nous sommes extrêmement intéressés par les promesses. Et nous connaissons tous ce verset, nous le chantons même dans nos églises, parce que, à propos bien sûr, c'est le verset 6, où nous chantons en boucle souvent, « Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Nous le savons, l'œuvre de Dieu ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord, hein ? Personne ne peut contredire cette affaire, et nous pouvons chanter « Ce n'est ni par la force ». Il est beau ce petit cœur, hein ? On le chante dans toutes les églises du monde, je pense, on chante ce verset qui indique la part de Dieu. Et c'est bien de connaître la part de Dieu. C'est important de savoir que c'est pas par l'intelligence, c'est pas par l'art oratoire, c'est pas par l'argent, c'est pas par l'organisation, par les comités, tout ce que vous voudrez, que l'œuvre de Dieu se fera. L'œuvre de Dieu, elle se fait par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est bien de le savoir. Mais en vérité, ça change rien. Parce que ce que nous devrions savoir, c'est pas les promesses, même si c'est important de connaître les promesses, ça provoque beaucoup d'assurance. Par exemple, si je vous dis un homme fidèle, la suite c'est quoi ? Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Je crois que c'est le proverbe 28. Attendez. Vous allez comprendre quelque chose. Je veux que vous compreniez quelque chose. Alors, proverbe. Aïe, 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 Gérard. Bon, je fais tout moi confiance. Combien ? 28, 20, c'est ça, hein ? Ah, Gérard, vous savez bien. Proverbe 28, 20. Regardez bien, Madame Bourdelle. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Bon, c'est une promesse, mais il y a une condition. Pour être comblé de bénédictions, il faut être... Donc, ce qui devrait nous accaparer, c'est pas la promesse, c'est la condition. Est-ce que vous me suivez ? Quelqu'un qui ne sait pas que Dieu peut combler de bénédictions, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que la personne, elle sache qu'il faut être fidèle. Est-ce que vous comprenez ? Dedans, il y a la part de Dieu et il y a la condition de l'homme, la part de l'homme. Vous me suivez, mes frères et sœurs ? Il faut absolument comprendre ça. Dans Zacharie, au chapitre 4, nous insistons sur ce verset 6, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, et on pourrait faire toute une étude là-dessus. Mais en vérité, ça ne sert, pour ainsi dire, strictement à rien, sinon à nous communiquer d'une certaine connaissance biblique. Ce qui est important, c'est la part de l'homme. Et la part de l'homme, dans ce chapitre, c'est cette histoire de chandelier. Le chandelier, dans la Bible, c'est l'instrument du témoignage. Tout un symbole. Le chandelier, c'est le témoignage. Un chandelier tout en or. Donc ce que Dieu nous demande, bien sûr que c'est bien que vous sachiez que l'œuvre de Dieu se fera par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien que vous chantiez ce petit cœur en boucle tant que vous voudrez. Mais je peux vous dire, vous pouvez le chanter pendant une dizaine d'années, ça ne changera rien. Ça n'obligera pas Dieu à se manifester dans nos réunions. Par contre, comme vous l'avez lu, Dieu marche au milieu des chandeliers d'or. Et Zacharie, qui est pourtant, Zacharie, c'est pas n'importe qui, franchement. C'est un homme de Dieu, il connaît la pensée de Dieu, il est inspiré, la preuve. Mais on peut être inspiré et avoir besoin vraiment d'une nouvelle révélation. Alors l'ange le réveille, on a besoin d'être réveillé, il faut vraiment que pour entendre la parole de Dieu, nous soyons réveillés, réveillés spirituellement, je ne parle pas réveillés physiquement. Et il me réveille, l'ange qui me parlait, dans l'Apocalypse, on voit que ça, l'ange qui parle, on a besoin de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que vous avez besoin ? D'une prédication qui va vous faire du bien ou de la pensée du Seigneur ? C'est la pensée du Seigneur. Des fois on dit, Seigneur, donne-nous une bonne prédication, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Seigneur, je veux connaître ta pensée. Zacharie, il avait besoin de recevoir la pensée de Dieu. Et Dieu le lui révèle au travers de cette vision. Et comme je le redis, nous faisons une fixation sur les promesses. Et c'est un drame parce qu'il y a des chrétiens qui ne vivent que de ça. Ils ont des boîtes à promesses, ils achètent des livres sur les promesses. Je suis pas foncièrement contre, mais ça sert à rien. Il vaudrait mieux acheter des livres sur les conditions. Un homme fidèle, le reste ça suivra. La part de Dieu, ne vous cassez pas la tête, Dieu s'en occupera. Mais notre part, nous devrions nous préoccuper. Et Zacharie, bien sûr, reçoit cette vision, et nous, ça devrait nous interpeller. Il nous dit, mais est-ce que je suis ce chandelier? Est-ce que je suis cet instrument du témoignage? Ou est-ce que la lampe que je devrais être est éteinte? On le voit du temps de Samuel, les lampes étaient éteintes. Quand le roi Ézéchias a obtenu la royauté, la première chose qu'il a faite, c'est de remettre les lampes dans le lieu saint, parce que pour lui, c'était important que tout à nouveau, la lumière brille, le lieu saint soit éclairé. On le voit plusieurs fois, les lampes étaient éteintes. Ces lampes qui devraient briller continuellement, je marche au milieu des chandeliers d'or. Si nous voulons que Dieu marche dans nos réunions, si nous voulons que le Saint-Esprit puisse convaincre de péché, c'est pas ça que nous voulons. Qu'est-ce que vous voulez dans une église? Qu'on soit nombreux ou qu'il y ait vraiment la présence de Dieu? La présence de Dieu. Et nous devrions tous, parce que quand même, on l'a lu, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Vous voyez, même servir Dieu ne provoque pas forcément la bénédiction du Seigneur. Ce qui amène la bénédiction du Seigneur, c'est cette affaire de chandelier d'or. Je marche au milieu des chandeliers d'or. Quelle sorte de chrétien voulez-vous être? Ça vous intéresse d'être un chandelier d'or? Cette intégrité? L'or nous parle d'intégrité, de divinité. Quand dans l'Apocalypse, la dernière église, elle va pas trop bien, elle est tiède. Elle est tiède, elle fait des œuvres. Et on le voit à cinq reprises dans l'Apocalypse, il dit, mais je connais tes œuvres. Les œuvres, bon, c'est une chose, mais voilà, l'état de ton cœur, ça n'est une autre. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable, nu. Je te conseille d'acheter de moi. Quel est le premier conseil que Dieu donne à cette église qui est pauvre spirituellement? De l'or. Je te conseille d'acheter de l'or. Oh, lisez-le avec moi, frères et sœurs. Vous voulez être des chandeliers en or? Achetez de l'or. Mais qu'est-ce que c'est ça? On m'avait dit que tout était gratuit dans la Bible. Qu'est-ce que c'est? Non, mais vous savez, moi j'ai tout entendu depuis que je suis pasteur. Mais en plus, ça serait un pasteur qui l'invente, je veux bien. Mais c'est Jésus qui parle. Regardez bien, le premier conseil que Jésus adresse à cette église, c'est un conseil. Ça nous prouve que Dieu ne force personne. Quelle grâce! Dans une église où on vous force, je peux vous dire que ce n'est plus l'église du Seigneur, c'est une secte. Dans la maison du Seigneur, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Vous savez, Jésus, il pourrait, du son ciel de gloire, dire un mot et tous les hommes se convertiraient. Est-ce qu'il pourrait le faire? Mais Dieu a décidé, dans son immense intelligence, de respecter le libre arbitre de chacun. Et les gens qui se convertissent, ce sont les gens qui veulent se convertir. Point. Jésus n'oblige jamais. Jamais. J'avais arrêté un frère il y a quelques années dans l'église qui priait. C'était un gars, bon, il n'est pas revenu. Seigneur, force-moi à faire ta volonté. Alors je me suis levé, je lui ai dit, écoutez, cette prière, Dieu ne va pas l'exaucer. Dieu ne nous force pas. Le Seigneur, il nous conseille. Apocalypse 3, verset 18. Premier conseil, qui correspond bien sûr au thème de ce soir. Je te conseille d'acheter de moi, donc ça veut dire que ça se passe dans sa présence, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Pourquoi ? Afin que tu deviennes riche. Acheter de l'or. Mais si on est pauvre, on ne peut pas acheter. Le verbe acheter indique incontournablement qu'il y a un effort à faire. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand vous achetez quelque chose, ça vous est jamais arrivé de passer devant un magasin ? Je me rappelle, moi, une fois, j'étais en ville, j'étais à 7-8 mètres d'un magasin, je vois une jolie cravate, vraiment une jolie cravate. Je m'approche, je regarde le prix, 150 euros. J'ai dit, bon, c'est bon. Mais il faut faire un effort pour acheter, vous êtes d'accord avec moi ? Mais c'est gratuit ou c'est pas gratuit, la grâce ? Bien sûr que tout est gratuit. Mais il y a le verbe acheter indique qu'il faut faire un effort. Je te conseille d'acheter. Alors là, il y a trois choses à acheter. Oui, pour de l'or, des vêtements blancs, comme l'a rappelé tout à l'heure un don spirituel. Et oui, la sanctification, c'est un travail. C'est un travail, la sanctification. Afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver exclus de la présence de Dieu parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Et la troisième chose à acheter, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mais ailleurs, il est dit d'acheter d'autres choses aussi. Acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Dans la parabole des 10 vierges, qui est une prophétie, le Seigneur, c'est Jésus qui parle, il dit, allez en ville et achetez de l'huile. Achetez de l'huile, il faut acheter le Saint-Esprit maintenant. Mais bien sûr que non. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Mais ça indique qu'il faut faire un effort pour chercher la présence de Dieu. Et ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que oui, ce n'est pas par la force, oui, ce n'est pas par la puissance, c'est par le Saint-Esprit dans une église que l'œuvre de Dieu se fera. Mais l'œuvre de Dieu se fait quand les chrétiens s'appliquent à devenir ces chandeliers d'or, cet instrument qui était entre le parvis et le lieu très saint, qui parle de l'église. Voilà, il y a le lieu saint, le très saint parle de l'église, mais le lieu très saint parle du ciel, mais le lieu saint parle de l'église. Et une église, tous les chrétiens doivent travailler à marcher et à devenir comme des chandeliers. Il ne comprend pas Zacharie, il ne comprend pas. Il est là, il est dans la perplexité, il a besoin d'une parole. Zorobabel aussi, il y a des moments, ils sont là, la construction, ils ont besoin d'une parole. Nous voulons bâtir l'église. Vous avez vu le verset que nous avons lu tout à l'heure, « Bâtissez ma maison et j'en aurai de la joie et je serai honoré. » Vous vous rendez compte ? Travailler à la construction de l'église, à la construction d'un temple spirituel. Et Dieu dit, j'en aurai de la joie. Quoi, moi, simple chrétien, je peux, par mon témoignage, procurer de la joie à Dieu ? Mais Dieu est parfait, Dieu n'a besoin de rien. Et pourtant, nous pouvons procurer de la joie au Seigneur. Ça vous fait pas chaud au cœur ? Quand Jésus dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Ah, Dieu a un cœur ? Il y a Dieu un cœur. Ah oui, c'est Dieu est esprit ou Dieu un cœur? Enfin, c'est un autre sujet. Mais enfin, quand même, on peut quand même en déduire qu'il y a des choses qui plaisent vraiment à Dieu, à notre Père. Et j'en aurai de la joie, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, comment Dieu aime, lorsque quelqu'un dit, mais ah bon, je devrais ressembler à ce chandelier d'or, un chandelier tout en or battu, quand vous regardez dans le Lévitique, votre livre préféré, la confection du chandelier, vous vous rendez compte qu'il y avait une grosse quantité d'or, et cet or était d'or battu. L'huile était faite avec des olives concassées. Ça vous donne une idée de ce que ça, vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a tout un brisement, qu'il y a la croix qui doit passer par là, et que toutes les épreuves, écoutez-moi bien, frères et sœurs, des épreuves, on en a dans tous les domaines. On en a dans le domaine physique, des fois on a des problèmes de santé, hein, paf, on se casse un orteil ou autre chose, etc. Des fois on a des problèmes au niveau de la famille, dans le couple, est-ce qu'on peut avoir des problèmes dans le couple? Mais oui, est-ce qu'on peut avoir des problèmes dans l'église? Mais oui, on peut avoir des problèmes dans la société, dans tous les domaines. Toutes les épreuves devraient façonner en nous ce chandelier. Le Seigneur le dit, je vous ai éprouvé, mais pour vous donner l'abondance. Et Dieu veut que nous comprenions, quand vous lisez la Bible, ça c'est vrai que c'est notre devoir de pasteur, peut-être qu'on l'a mal fait, c'est sûr, pardon. Mais nous devrions, quand nous prenons le chapitre, dire, tiens, il y a une promesse, d'accord, merci pour la promesse, mais quelle est ma part? Quelle est ma part? Je vous en ai parlé dernièrement, quand les gens utilisent cette promesse, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est une belle, on la voit souvent sur les signets, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça, c'est la promesse. Mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire le contexte dans ce chapitre 4 des Philippiens? Allez, aidez-moi. Allez, on va y aller. Regardez, c'est important. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait devenir un chandelier en or? Il y a un prix à payer, c'est gratuit. Tout est gratuit, mais il y a un prix. Parce que trouver le chandelier, il pesait que 39,5 kg. Trouver ce poids en or, ça va vous demander quand même. Si je demande à quelqu'un d'aller me chercher un kilo de paille et à quelqu'un dans la même église, dans le même temps, d'aller me chercher un kilo d'or, je sais qui c'est qui va revenir en premier. Celui qui voudra trouver un kilo d'or ce soir en ville, il va quand même bosser. Quand même. Regardez bien, il faut, mes frères et sœurs, qu'on soit sérieux. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Le premier conseil que m'a donné mon pasteur, je me rappelle, quand je suis rentré dans le ministère, il m'a dit, écoute Gérard, si tu veux être pasteur, sois sérieux et ne te prends pas au sérieux. J'ai trouvé que c'était bien. Regardez bien. Alors, Philippiens, pardon. J'ai dit un Pierre? Non, excusez-moi. Philippiens chapitre 4. Il faut comprendre ça, mes frères et sœurs. C'est archi important. Une promesse, c'est important. On en a besoin. Donc, Dieu dit dans Philippiens chapitre 4, alors, souvent sur les signets ou même les pasteurs, utilisent le verset 19 en oubliant le petit mot « et ». Vous avez vu, Philippiens chapitre 4, verset 19, sur les versets, il est dit « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins ». Ce n'est pas écrit comme ça. Il est dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». C'est une conséquence de quelque chose qui est écrit au verset 16. « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Vous avez, au verset 14, j'aurais dû commencer au verset 14. « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Et cette église des Philippiens, quand ils ont su que Paul était à Thessalonique, qu'il avait des difficultés par rapport à son ministère, eh bien, elle l'a fait. Vous fûtes les seuls. Je pense que une missive a dû être envoyée à plusieurs églises, mais il n'y a que l'église de Philippe qui a dit « Ah, l'apôtre Paul, il a besoin qu'on l'aide ». Ils l'ont aidé. Ils ont dû en parler avec les anciens, le conseil d'administration. Ils ont dû dire « Écoutez, on ne pourrait pas faire une offrande pour le pasteur Paul. Il est en difficulté à Thessalonique. On va envoyer un don par tel frère. Allez. » Paul dit « Voilà, vous avez été les seuls à pourvoir à mes besoins. » Vous avez été les seuls à le faire. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Alléluia. Mais dire aux gens, Dieu pourvoira tous vos besoins, ne vous cassez pas la tête, ce n'est pas honnête. C'est vrai que Dieu, dans sa grâce, il peut le faire. Mais une chose est sûre, si un chrétien s'applique. Ah, mais je vais, tiens, justement, peut-être que je peux pas donner beaucoup, mais je peux donner de mon temps, je peux donner de la prière, je peux donner de mon zèle pour l'œuvre de Dieu. Tiens, je sais que Monsieur Bordeneuve, il fait un travail difficile au Niger. Eh bien, je veux donner. C'est peut-être pas de l'argent. Nous, d'autres chrétiens donnent de l'argent et on achète des tonnes de mille pour faire le travail d'évangélisation. Et Dieu pourvoira tous vos besoins. Et là, c'est pareil, dans le chapitre 4 de Zacharie, oui, ce n'est pas par la force, mais ça, on le sait. Mais est-ce que je suis, dans l'église, un chandelier en or ? Achète de l'or, éprouvé par le feu. C'est vrai que ça nous parle des épreuves, mais ça ne vaut pas la peine quand même d'être éprouvé pour devenir un chandelier tout en or. Ça ne vaut pas la peine de travailler parce que Dieu ne fait pas couler son huile, il ne faut pas rêver. Ne vous imaginez pas, si vous avez lu la Bible, que l'onction, l'huile d'onction qui était répandue sur les vêtements, c'est-à-dire qu'elle n'est pas répandue sur la chair, elle est répandue sur les dons, l'huile d'onction, elle ne coulait pas comme ça, un séminaire, l'onction va venir, ce n'est pas vrai. L'onction, elle vient lorsqu'il y a obéissance dans les sacrifices, dans le sacrifice de consécration, Lévitique chapitre 8. Moi, je suis effaré quand je vois le nombre de chrétiens qui s'imaginent que l'onction, elle va venir comme ça par l'imposition des mains. Ce n'est pas vrai. L'onction, dans la Bible, elle vient par l'obéissance à la volonté de Dieu. Une fois que plusieurs sacrifices et plusieurs choses sont faites, on les expliquera à la réunion de responsables parce que c'est un petit peu plus compliqué. En tous les cas, une chose est sûre, Dieu veut que l'huile coule. Et cette huile, elle coule par des canaux. On le voit là, il y a deux oliviers, il comprend pas tout. Il y a deux oliviers qui sont près du vase, qui alimentent le vase, des conduits tout en or. Tout doit être fait dans l'intégrité. Ces oliviers nous parlent de ces réserves inépuisables, mes frères et sœurs, les ruisseaux de Dieu. Ils sont pleins d'eau. Ces deux oliviers nous parlent des ressources inépuisables de la puissance du Seigneur. Dieu peut tout faire. Oui, ce n'est pas par la force qu'une église sera bénie. Oui, ce n'est pas par les dons et tout ce que enfin, par les talents humains, etc. L'œuvre de Dieu, elle sera bénie par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se manifester par des chandeliers. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit qui passe par les chandeliers que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devrions dire, oui, je veux acheter de l'or éprouvé. Mes épreuves, je les accepte toutes. D'ailleurs, si vous ne les acceptez pas, vous allez tourner en rond. Jusqu'à ce que vous les acceptiez. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est clair. Une épreuve, elle peut durer 3 mois, mais la même épreuve peut durer 3 ans. C'est comme ça. Là, c'est un sujet beaucoup plus compliqué que ça. Mais la même épreuve, elle peut durer quelques jours, elle peut durer quelques années. Vous pouvez redoubler des années. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Oui, je vais faire des efforts, je veux être ce chandelier par lequel l'huile passera. Il y a des réserves inépuisables, ne vous cassez pas la tête, la participation de Dieu, vous ne vous inquiétez pas. Mais je veux être ce chandelier, je veux marcher dans l'intégrité, je veux laisser le Saint-Esprit m'envahir de sa parole. Et on voit bien dans ce texte qui m'intéresse parce que le verset 9 correspond à la vision que je crois avoir reçue du Seigneur, lorsque il lui dit « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront ». Vous comprenez bien que Dieu a commencé une œuvre et laissez-moi vous dire qu'il l'achèvera. Vous pouvez en être sûr. Mais c'est quand vous connaissez Dieu un peu, vous savez que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Pour cela, on ne peut pas dire « Seigneur, ton esprit, ça ne sert à rien ». Pour cela, Seigneur, fais de moi un chandelier. Le Saint-Esprit, Dieu le sait ce qu'il doit faire. Dieu le sait ce que son esprit doit faire. Dieu le sait comment le Saint-Esprit peut bénir par sa puissance une église. Ne vous occupez pas de la part de Dieu. Occupons-nous de notre part. Seigneur, il ne faut pas que mon chandelier soit mélangé avec des choses mondaines. Il ne faut pas que ma vie spirituelle soit conjuguée de choses charnelles. On l'a lu, quel rapport y a-t-il entre l'iniquité et la sainteté? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? On l'a lu. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Dieu veut marcher au milieu de nous. Mais qui c'est qui est le plus intéressé? Vous croyez que c'est vous le plus intéressé? Le plus intéressé, c'est Dieu. Il veut marcher. Dieu n'attend qu'une chose, c'est d'être dans une église et de pouvoir marcher et de guérir et de libérer et de sauver. Croyez-moi que Dieu est plus intéressé que vous. Il a, dans sa grande souveraineté, décidé de ne pas le faire par lui-même, il le fait par des hommes. C'est terrible, ça. Je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Dieu cherche des hommes, des femmes. Des hommes, des serviteurs, des servantes, des diacres, des pasteurs, des diaconesses. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont marcher dans la sainteté. Parce que cette affaire-là prouve une chose. C'est que ça, c'est bien quand même, parce que Zorobabel en avait besoin. Moi, j'aime bien le verset 7. On va être obligé de conclure, mais quand même, j'aime bien le verset 7. Et je voudrais que vous gardiez ce petit verset dans votre cœur pour que vous compreniez que le fait d'acheter de l'or nous amènera tous à ce point. Regardez bien. Après avoir rappelé la part de Dieu, parce que quand même, il faut aussi le rappeler, quand même. Mais Dieu dit ceci, « Qui es-tu, grande montagne ?» Grande montagne, Gaël nous rappelait que les montagnes, c'est les difficultés. « Qui es-tu, grande montagne ?» Les grandes montagnes, bien sûr, c'est l'image des grands problèmes. Mais quand le chandelier est là, voilà comment Dieu parle. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. » Notre Zorobabel à nous, c'est le Seigneur. Tu seras aplani. Vous pouvez dire, ouais. Amen. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, maintenant on entre dans le concret. À partir du moment où on a compris, il y a la part de Dieu, c'est son affaire, il la fera, ne vous inquiétez pas. Ma part, c'est de devenir ce chandelier tout en or pour que Dieu ait un instrument par lequel il va pouvoir faire son œuvre. À partir du moment où Dieu a un instrument, lui, le coule par ses canaux et alimente le vase, rien ne l'obstrue. Et Dieu dit, écoute-moi bien, tu vois les montagnes, tes grandes montagnes, c'est des problèmes, c'est un fait. Je m'en occupe. Vous savez, quand c'est Dieu qui s'occupe de nos problèmes, j'ai quand même remarqué, moi, que c'est quand même bien. Quand Dieu combat pour nous, moi, j'ai remarqué que c'est quand même bien. Et le bon combat de la foi, je vous rappelle à tous, que c'est Dieu qui combat pour nous. Sinon, ça ne serait pas un bon combat. Et je peux vous dire que des mauvais combats, il y a des chrétiens, des fois, oh, quel combat, j'en ai marre de ces combats. J'ai dit, mais ce n'est pas le bon combat. Parce que le bon combat, c'est Dieu qui combat pour vous. Et c'est exactement ça. Qui es-tu, grande montagne? On a besoin d'être rassuré. Franchement, on n'a pas besoin d'être rassuré. Qui es-tu, grande montagne? C'est vrai que c'était compliqué, vous regarderez le contexte, il y a un chapitre pour Zacharie, il y a un chapitre pour Zorobabel, il y a un chapitre pour chacun, une parole pour chacun. Mais qui es-tu? Quand Dieu voit des petites choses, j'avais dit que je terminerais avec le verset 7, mais ce n'était pas vrai. Zacharie, chapitre 6, verset 10, regardez, non mais c'est important, parce que le regard de Dieu sur les petites choses, vous savez, c'est important quand même, cette délicatesse du Seigneur. Voyez, je termine, peut-être. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, vous savez, toutes les grandes choses commencent par de petites choses. C'est comme ça, faut pas rêver. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, alors qu'est-ce que Dieu dit? Se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Le niveau, dans une autre version, c'est le fil à plomb. Vous savez ce que c'est un fil à plomb? Les maçons s'en utilisent pour monter un mur droit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il se réjouit quand il voit dans la main d'un de ses serviteurs, d'une de ses servantes, et bien ce niveau, c'est-à-dire, c'est la parole. Je fais les choses d'après la parole. Je commence comme il faut. Je fais les choses comme il faut. Moi, j'étais étonné de voir qu'au premier bloc, des maçons qui ont 30 ans d'expérience, le premier bloc, ils commencent avec le fil à plomb. Vous l'avez remarqué, ça, les maçons? Premier plomb, premier bloc. Et voilà, si le premier, il est tordu, le mur sera tordu. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? À chaque bloc, chaque brique, tac, 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 le fil à plomb. Et Dieu dit, vous voyez, il y a des choses quand même qui sont chouettes. Que Dieu se réjouit quand il voit que devant des montagnes, il nous promet, t'inquiète, moi je m'en occupe. Des montagnes, c'est mon affaire. Ce que je veux voir, c'est que dans ta main, dans ton cœur, il y a ce souci de construire droitement. Et je termine. Quand Caleb, quand Dieu parle de Caleb, c'est impressionnant. Caleb a pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est pour ça qu'il entrera dans le pays promis. Alors quand vous étudiez ce que Caleb a fait, chaque fois qu'il parle, il cite la parole. Moi, je trouve que c'est super. Ses yeux se réjouiront en voyant le fil à plomb ou le niveau dans la main de Zorobabel. Que Dieu soit béni. Je te conseille, je nous conseille d'acheter de l'or. C'est gratuit, mais il y a un gros morceau d'or à acheter. Mais c'est payant en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord que vos cultes personnels soient améliorés, votre temps de prière soit amélioré, votre service soit amélioré, vos choix soient améliorés, vos décisions, votre détente, il faut veiller sur sa détente. Est-ce qu'on a le droit à se détendre? Mais bien sûr, j'aime pas trop le dire parce qu'il y en a qui savent l'utiliser ça. Je vous assure que c'est vrai. Mais il n'empêche, il y a un temps pour tout, mais même tout cela devrait nous amener à dire, Seigneur, oui, je voudrais que tu vois dans l'église où tu m'as placé, je voudrais que je fasse partie de ces chandeliers d'or. C'est pas compliqué. Dieu marche au milieu des chandeliers d'or. Là où il y a le mélange et la corruption et le péché, vous avez vu dans l'église de l'Odyssée, où il est où le Seigneur ? Dehors. Alors nous, on ne veut pas que Jésus soit dehors de notre église. Nous, on veut que Jésus soit à l'intérieur. Alléluia. Et ça, c'est l'affaire de tous les chrétiens. C'est pour ça qu'avant de se baptiser, on devrait quand même veiller à ce que les gens soient passés des ténèbres à la lumière. Et non pas baptisés parce que des gens ont fait quelques expériences super avec Dieu. Moi, je vous propose qu'on lui demande de l'aide. Et quand on lit la Bible, ne pas regarder que les promesses, mais de regarder les conditions à ce que ces promesses se manifestent. Que le nom du Seigneur soit béni. On lui demande de l'aide. On le fait simplement devant sa face. Notre Père, notre Dieu, il est évident que nous te remercions pour chaque promesse. Si tu as fait des promesses, nous nous doutons bien que ce n'est pas pour toi que tu les as faites, c'est pour tes enfants. Cela nous touche, Seigneur, de voir tant de promesses. Mais nous voudrions être intelligents, Seigneur, et discerner ta volonté et comprendre la condition pour chacune de ces promesses, même si certaines sont inconditionnelles. Nous voyons bien que dans ta parole, il y a plein de conditions à l'obtention de ces promesses. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Oui, c'est ce que nous voulons, que dans l'église où tu nous as placés, eh bien, tu marches. Non seulement tu marches, mais tu habites au milieu de nous. Non seulement dans ce lieu, mais dans nos maisons, que ta présence se manifeste. Combien nous anticipons ces moments où nous croyons que tu vas guérir, libérer ta grâce, sauver des pécheurs, convaincre des fils prodigues, ramener des fils prodigues. Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous voulons que ta volonté soit faite et qu'au milieu de nous, Seigneur, franchement, Seigneur, aide-nous de tout notre cœur, nous te le demandons, à ce qu'il n'y ait que des chandeliers en or. Même si ça demande plein d'efforts, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous souiller, à ne pas nous salir par des choses mondaines de l'extérieur qui viennent souiller notre âme et empêcher l'huile de ces oliviers d'alimenter notre vase. Que nous ne soyons pas des obstacles à ta bénédiction. Seigneur, merci de nous aider à comprendre tes promesses et les conditions à ces promesses. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.